ETIradio.tv, la web radio 100% dédiée aux entreprises de taille intermédiaire. Animée par Alain Marty, en partenariat avec l'Union des marques, et Généo Capital Entrepreneur, la société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio. Vous êtes 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Fanny Letier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Et Olivier Terrier du groupe EPSA. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on pétille de plaisir en accueillant Laurent Darcourt, président du directoire de cette belle maison Paul Roger. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Alors vous êtes né en 1963 en Bourgogne, un diplôme d'économie et de droit, et après vous êtes parti au pays de l'oncle Sam, aux États-Unis. C'était une belle aventure pour vous.
Hein. Oui, c'était une super aventure. Je terminais mes études de droit et d'économie. Je voulais faire de l'expertise forestière et je me suis aperçu assez rapidement que je n'étais pas destiné à ça.
Enfin, il y a quand même beaucoup de forêts aux États-Unis, hein ?
Oui, il y a beaucoup de forêts, mais je ne suis pas parti aux États-Unis pour voir les forêts. Je les ai vues,
oui.
Mais je suis parti pour comme ambassadeur. Je suis parti avec 2000 cartes de visite. C'était écrit « Wine Consultant ». Je ne connaissais pas le vin, je pratiquais très peu l'anglais. Et après un an aux États-Unis, j'ai su ce que je voulais faire.
Et donc après, donc vous êtes resté un an, vous avez appris l'anglais, vous étiez bilingue en partant ou pas ?
Oh ben j'espère. Je pense que j'ai bien pratiqué mon accent français, mais j'étais, je pense, plutôt bilingue.
Oui. Alors ensuite, retour en France pour un truc que les jeunes ne connaissent pas, le service militaire. Puis après, une nouvelle expérience à Meursault, en Bourgogne. C'est sympa ça aussi, hein ?
Meursault, j'habitais à Dijon, j'ai fini mon service militaire sur la base aérienne de Dijon et en m'étant rapproché et de mes racines et de la côte et j'ai répondu à une annonce pour être responsable de zone export pour une petite maison de Meursault et ça a été le début de mon parcours professionnel.
Ça se vend très bien quand même. Est-ce qu'on a besoin d'un directeur export d'ailleurs ? Parce que ça se vend naturellement le Bourgogne, non ?
Je pense qu'aujourd'hui c'est plus simple. C'est peut-être compliqué parce qu'il n'y a pas de vin.
C'est ça.
Mais à la fin des années 80, ouais, début des années 90, il y a eu quand même une petite crise.
Ouais. Il y a d'autres pays qui produisent d'excellents Pinot Noir et Chardonnay. Alors, dites-nous, Laurent, donc, c'est en 1996 que vous posez les valises en Champagne, d'abord chez Bruno Paillard, et après vous avez rejoint votre nirvana professionnel, la maison Paul Roger, c'était en 2006. Un mot sur l'historique de cette belle maison familiale.
Paul Roger, créé par Paul Roger, Paul le prénom, P-O-L, Roger, en 1849. Paul Roger, un des rares fondateurs de maisons de champagne à être un local. Il y a eu beaucoup.
Il n'était pas allemand.
Exactement. Son père était notaire à Haï. Et il a créé sa maison et il a très jeune, hein, parce qu'il avait moins de 18 ans quand il a créé son entreprise. Et très vite, il s'est installé à Épernay. À Épernay après Haï.
Et oui.
Et non pas à Avenay avant Haï.
Oui.
Et il a commencé à élaborer du champagne. Il a même commencé en vendant du champagne qu'il élaborait à un certain nombre de maisons. Jusqu'au jour où son agent anglais, parce qu'il a très rapidement travaillé à l'exportation et principalement en Angleterre, et son agent anglais lui a un jour dit « Mais... tu fais un champagne formidable, pourquoi est-ce que tu ne le vends pas sous ton nom, quoi ? Pourquoi tu ne développes pas la vente de ta marque ? Et ça a été le développement de la marque.
En quelle année la marque a été créée ?
Ça date du début de la maison. Je veux dire, il avait déjà sa marque, mais il a mis son nom sur ses bouteilles. Et dans la deuxième partie du 19e siècle, ça s'est beaucoup développé. Et ses deux fils, Maurice et Georges Roger, l'ont rejoint et ont participé au développement de l'entreprise. Et fin 1899, Paul Roger est décédé. Quelques mois après, il y a eu un drame incroyable chez Paul Roger. Il y a une partie des caves qui s'est effondrée. Et ils ont perdu à l'époque, je dirais, l'équivalent de 1,5 million de bouteilles.
Ah, c'est énorme.
Et de plus de 500 pièces de vin. C'était grâce à la solidarité champenoise, grâce aux autres maisons sparnassiennes, ils ont réussi à s'en sortir. Quelques mois après ce drame, alors ils étaient incroyables, parce que c'était vraiment le début du marketing, on a retrouvé dans les archives de la maison des courriers qu'ils ont envoyés à tous leurs partenaires partout, en Inde, aux États-Unis, en Angleterre, en disant « Mais voyez, je ne sais plus comment s'appelait ce magazine qui relatait ce drame, vous trouverez l'information aussi jointe, mais sachez qu'on a des bouteilles à vendre et qu'on serait ravis de préparer vos ordres. » Et on recevait, alors il y avait l'agent britannique qui envoyait tous les jours un courrier avec les ordres du jour.
Extraordinaire quand même.
Et c'est fabuleux.
Aujourd'hui, c'est toujours une maison familiale ?
C'est tout à fait une maison familiale. Alors, je termine juste ça, c'est que Maurice et Georges Paul Roger, Maurice qui a été maire d'Épernay et Georges qui était juge, ont demandé à l'État français de changer leur nom et de rajouter le prénom de leur père à leur nom de famille. Donc, ils sont devenus Paul Roger. Ça, c'est dès le début du siècle dernier. Et oui, aujourd'hui, la maison est toujours familiale, avec des membres de la 4e, 5e, 6e génération. Hubert de Billy, qui est né également en 63, est membre de la 5e génération. Sa sœur Véronique a repris la présidence du conseil de surveillance il y a quelques années, à la suite de son père, Christian de Billy, 4e génération. Et puis, Bastien Collard, un membre de la 6e génération, nous a rejoint il y a un peu plus.
C'est extraordinaire quand même, Fanny. Belle histoire.
C'est extraordinaire. Et pour poursuivre là-dessus, moi, j'ai envie de dire, vous avez fait plusieurs maisons. Et puis, vous avez été coopté dans la famille, responsable des ventes, directeur export, maintenant dirigeant. Comment, en fait, ça s'organise, l'articulation entre le dirigeant et l'actionnaire familial ?
Bah, il y a déjà, une gouvernance. Oui, déjà, c'est une immense fierté, une grande fierté d'avoir cette responsabilité, parce que je ne suis pas issu d'une famille chef d'entreprise ou ayant une entreprise familiale, mais je suis issu d'une famille qui a des racines assez profondes, et pour moi c'est tout à fait naturel. Je veux dire, je dirige l'entreprise en considérant que je le fais pour la famille. Il faut trouver des équilibres. On a un fonctionnement, alors ce fonctionnement de conseil de surveillance et de directoire est quand même formidable. Je trouve que c'est très intéressant, parce que on rencontre régulièrement de l'activité de l'entreprise. On a des échanges. On a aussi des limites, je veux dire, on a des souhaits, mais on soumet toutes nos idées. Et puis, vous savez, en Champagne, on ne réinvente pas quelque chose tous les ans. Je veux dire, chaque année, on a un cycle, il y a les vignes, il y a les vinifications, il y a les assemblages. Et on essaye, on est plutôt très traditionnel. Et le plus gros challenge pour nous, c'est de réussir à mettre chaque année, et le vin le plus dur à réaliser pour nous, c'est le brut non millésimé.
Bien sûr. Combien de bouteilles au total ? 2 millions de bouteilles sur
la maison ? Oui, environ 2 millions, un petit peu plus de 2 millions de bouteilles en 2021, probablement un peu trop par rapport, parce que vous savez, on a entre 5 et 6 années de stock en moyenne dans nos caves.
Pas que ça s'écroule là, Laurent.
Non. Donc environ 2 millions pendant pas mal d'années, on était à peu près 1,5 million, 1,6 million bouteilles. On a un vignoble, on a la chance d'avoir un vignoble maison, ce qu'on appelle un vignoble maison, c'est-à-dire un vignoble détenu par la maison Paul Roger et détenu par les actionnaires familiaux, qui représentent un peu plus de 90 hectares de vignes.
Ce qui est énorme en Champagne. Hein.
Ce qui est important, ça représentait pendant longtemps plus de 55% de nos approvisionnements. Aujourd'hui, c'est plutôt 40%. Et puis, ça dépend aussi des niveaux d'appellation.
Bien sûr.
Le reste de nos approvisionnements provient de contrats. On a des contrats à long terme avec des vignerons qui quelquefois, sont les petits-fils des vignerons qui livraient déjà la maison aux grands-parents.
Fanny ?
Alors, je trouve assez signifiant quand même que la famille ait choisi pour diriger ce directoire le membre du conseil responsable de l'export. C'est dire l'importance en fait du commerce et du commerce à l'international, l'importance de la marque aussi. Qu'est-ce qui fait la force de la marque Paul Roger, notamment à l'international ? Et est-ce que vous avez quelques conseils pour les ETI qui nous écoutent sur ce qui fait une marque forte ?
Je pense... On a parlé précédemment de l'attachement. Il y a beaucoup de gens qui, quelquefois, qui sont peut-être un petit peu jaloux, qui disent « Ouais, mais c'est un petit peu Paul Roger, c'est un petit peu poussiéreux, c'était le champagne de mon grand-père, c'est le champagne de Churchill, etc. Et, » Mais finalement, c'est vachement bien d'être le champagne du grand-père, parce que c'est quand même la première flûte de champagne, c'est celle qu'on va boire en famille, les premiers événements, les premiers diplômes, les premiers... Et puis, on était le champagne de Churchill, et Churchill a été un formidable ambassadeur pour la maison, parce qu'il était attaché au millésime de la maison.
Il y a une cuvée de Churchill. Hein.
Et il y a une cuvée qui porte son nom en sa mémoire.
Qu'est-ce qu'il disait de Churchill ? Le magnum, c'est le format le meilleur pour un déjeuner entre deux semaines, surtout quand il y en a un des deux qui ne boit pas.
On l'attribue, oui, c'est ça. On l'attribue à Churchill, mais c'est quelque chose qui est professé par beaucoup de gens du monde du vin, et c'est vrai que le magnum, et en anglais ça sonne encore mieux.
C'est beaucoup mieux en anglais, vous avez raison. Olivier, vous aimez le champagne ?
Oui, absolument.
Et votre champagne favori depuis maintenant, c'est le champagne ?
Churchill.
Non, Paul, enfin oui aussi, Paul Roger. Allez, ça marche.
Merci, vous produisez effectivement plus de 2 millions de bouteilles par an. Vous gérez un stock de plus de 9 millions de bouteilles qui vieillissent dans des kilomètres de caves. Je m'interroge particulièrement sur vos achats de production. Avez-vous entamé des démarches d'éco-conception avec vos fournisseurs ? Je pense notamment à la filière du verre, papier, carton. Comment se comporte le marché vis-à-vis des achats responsables ?
Bien sûr. C'est quotidien. Hein. Ces réflexions sont quotidiennes. Déjà, ça commence au niveau de la vigne, de la champagne. Et là, il y a eu des engagements de la profession. C'est important parce que vous avez beaucoup de gens... Quelquefois, c'est facile. Je dirais que c'est plus facile dans d'autres régions viticoles où vous avez une propriété et le domaine autour de la propriété d'initier des démarches au niveau de l'environnement, au niveau des pratiques. En Champagne, c'est extrêmement morcelé. On a des approvisionnements qui viennent de toute la Champagne et c'est fondamental que cet engagement et probablement que la Champagne était en retard sur ce domaine, mais on a beaucoup avancé et grâce à notre interprofession qui est très forte, c'est-à-dire les vignerons avec les négociants ensemble qui co-dirigent l'interprofession champenoise, on a initié des changements et des engagements importants. Au niveau des certifications, au niveau des produits de traitement, etc. Au niveau des produits, au niveau du verre, ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on a allégé que la bouteille champenoise traditionnelle. Alors, il y en a qui ont des bouteilles spéciales. Hein. Il y en a qui ont besoin aussi d'avoir une bouteille spéciale qui pour identifier la marque. Si ça continue, on va bientôt avoir une bouteille spéciale chez Paul Roger parce que, quoi, je veux dire, la bouteille champenoise va peut-être devenir une bouteille spéciale parce que...
On a autre chose, quoi.
Voilà. Mais la bouteille champenoise, c'est comme la bouteille bourguignonne, comme la flûte alsacienne. Je veux dire, c'est formidable d'avoir une bouteille qui permet de dire...
Identifie un terroir et une
énergie. Exactement. Ouais. Et bien sûr, on a... J'aurais pu vous amener une bouteille... On a retrouvé des bouteilles qui datent de l'effondrement et parmi les nombreuses bouteilles cassées...
Elles sont très plates, non ?
Oui, mais elles sont pleines et on a retrouvé des bouteilles pleines et l'émotion, je peux vous dire, est incroyable quand vous goûtez des vins qui ont plus de 100 ans.
Et ça donne quoi alors ? Parce que nous, on n'en a jamais goûté.
En fait, on connaît...
Ils étaient sucrés à l'époque ou pas ?
Oui, mais pas tant que ça. On pourrait... penser que les dosages étaient très importants, mais on a fait des analyses sur ces bouteilles retrouvées et étonnamment, c'est plutôt des dosages classiques de brut.
Ah oui.
Alors bien sûr, sans effervescence, mais les vins sont incroyables et les bouteilles vides. Elle pèse un poids incroyable. Toutes les bouteilles étaient...
C'est pour ça qu'il y a beaucoup de veuves en Champagne.
Probablement.
Olivier.
Et enfin, donc, Parlons robotisation. Récemment, une start-up a développé une flotte de drones capable de reconnaître la maturité des fruits et de les cueillir si c'est le bon moment. On pourrait imaginer un procédé similaire pour les vendanges ou pour des actions ciblées contre le gel, la grêle. Bref, c'est potentiellement sans limite. Que pensez-vous de ces évolutions technologiques dans le monde viticole ?
Je pense que c'est intéressant, mais c'est aussi intéressant quand les vignerons surveillent leurs raisins et n'ont pas forcément des outils pour surveiller la qualité de leurs raisins. Ce qui est fondamental, je parlais de morcellement, etc., c'est que nous, nos approvisionnements viennent de toute la Champagne. Les vignerons avec lesquels on travaille ont quelquefois des parcelles sur des versants qui sont exposés différemment, etc., mais on n'a pas des grandes parcelles. Donc c'est très difficile d'observer, de robotiser, de regarder. Je pense qu'on reste dans un métier, alors là, pour le coup, le télétravail, il est compliqué. Mmh.
La taille en télétravail...
Non, mais même au niveau de la vigne, même de notre métier, de faire aimer le champagne, de faire goûter, de faire connaître, on dit souvent qu'on est dans le people business. Je veux dire, le relationnel est très, très important. C'est ce qui nous manque, d'ailleurs, depuis 2 ans.
Bien sûr, séduire en team, c'est pas facile.
C'est compliqué.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année ? Une super vendange, là ? Enfin, oui. Attention, pas trop de gel, pas trop de soucis, parce que ça peut malheureusement arriver.
C'est vrai. On a la nature est quand même maîtresse. C'est vrai qu'on on vient de passer une année 2021 assez compliquée. Il y a eu un rebond important au niveau de l'économie et des ventes. On aurait aimé pouvoir rentrer plus de raisins pour pouvoir mettre plus de bouteilles en cave. Alors, on a un système de réserve en Champagne qui nous permet de le faire. Oui. Mais exactement. Mais on a vraiment besoin. En effet, on souhaite, parce que d'une part, cette année, on va faire un gros tirage de brut non millésimé, ce qui est bien parce que ça va nous permettre de nous refaire une santé. Mais on aime aussi avoir des années particulières qui nous permettent d'avoir une illustration particulière de ces années en produisant des millésimes, des blancs de blanc, une cuvée de Churchill incroyable. Et donc on souhaite vraiment, et surtout on parlait de croissance. La croissance, c'est important, mais il faut qu'elle soit raisonnée. Et c'est très important, en fait, pour nous. Nous, c'est plutôt la recherche de valorisation pour être capable de continuer d'avoir accès aux meilleures matières premières. Et on n'a pas d'ambition d'augmenter trop notre taille, parce qu'on veut garder cette taille humaine.
Valoriser le produit, mon cher Laurent. Oui. Merci en tout cas, bravo pour cette magnifique belle maison, hein, Paul Roger. On vous souhaite, on va vous interviewer dans 3 siècles pour voir comment les choses auront évolué. Merci également, Fanny et Olivier. Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, ça sera 14h précise, pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine d'ETIRadio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec l'Union des marques et Généo Capital Entrepreneur, la société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin.